Bible dans le livre des Actes, un livre très important parce qu'on voit le début de l'Église. Voilà, et je vois que Bruno est en train de se battre avec le PowerPoint. C'est toujours compliqué les PowerPoint, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Eh ben, je croyais avoir tout écrit en blanc, mais ça s'est transformé en noir pour qu'on voit, il n'arrive plus à lire. Bon, tant pis. On verra si on arrive à lire, on ira, sinon je vous commenterai. Alors, la dernière fois, j'avais commenté les 8 premiers versets du livre des Actes avec une entrée de matière assez forte, un rappel que Jésus est vivant. Je peux mettre la diapo suivante si elle veut bien se mettre en blanc comme c'était prévu. C'est toujours les passages d'une machine à l'autre qui sont parfois un petit peu étranges, hein. Jésus est vivant, c'est ce que nous dit le début du livre des Actes. Il est mort, il est ressuscité, il est encore vivant aujourd'hui, il agit et il enseigne dans notre monde. Il a agi, il a enseigné quand il était sur terre pendant quelques courtes années, et puis il continue à le faire. Et puis, le début du livre des Actes nous rappelle une autre chose de plus, nous avons une mission importante, être témoin de Jésus-Christ. On verra si ça vient. Nous sommes appelés à être témoins de Jésus-Christ. Jésus doit remettre les disciples un peu à leur place, et je pense comme nous aussi, un peu à l'ère des médias. Il rappelle aux disciples qu'ils sont appelés à être témoins et non à spéculer sur ce qui va se passer dans la suite. Notre boulot, c'est d'être témoin. Alors, pour aujourd'hui, on va lire une section assez grande, à partir du verset 9 et jusqu'à la fin du chapitre premier, avec deux grandes parties. La première partie, sur laquelle je vais passer assez vite, qui est ce qu'on fait d'habitude à l'Ascension, on est un petit peu en avance, hein. Après 40 jours après ses disciples, enfin Jésus est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples, et ensuite, il est devenu invisible pour eux, il continue quand même à agir et à enseigner. Et puis, la deuxième partie où j'avais envie de passer un petit peu plus de temps, c'est le choix du 12e apôtre. Judas est décédé et ils vont élire un 12e apôtre. Je trouvais que dans une journée d'assemblée générale, c'était pas mal de prendre un peu de temps sur ce passage-là. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va lire d'abord au premier chapitre, les versets 9 à 14. Après ces mots, ils virent Jésus s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leurs yeux. Ils gardaient encore des yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors, les apôtres quittèrent la colline, qu'on appelle le Mont des Oliviers, située à environ un kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un passage que je trouve important, et je voulais juste commenter quelques éléments qui me paraissent importants dans ce passage. La vraie question dans ce passage, c'est comment Jésus pourra-t-il être présent pour tous ? Le verset juste avant ce qu'on a lu, c'est que les disciples doivent être témoins dans le monde entier. Comment Jésus va faire pour être présent pour tous les disciples du monde entier ? C'est finalement ça la vraie question. On comprend bien que les 11 disciples voudraient bien garder Jésus pour eux tout seuls, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que Jésus puisse être présent par son Saint-Esprit pour tous. Et c'est ça qu'on nous raconte dans cet épisode-là. Jésus sera présent pour tous, et chacun de nous, nous sommes appelés à attendre avec impatience son retour. On nous dit ici que Jésus disparaît dans la nuée ou dans un nuage, nous dit ce passage-ci. On nous mentionne deux choses. D'abord que Jésus s'élève et ensuite qu'une nuée vient le cacher, ou un nuage. Alors, nuage, c'est une expression un petit peu mal choisie à mon sens. J'aurais peut-être dû prendre une autre traduction. Hein. On utilise le mot nuée comme le mot qui était utilisé dans le désert. Vous savez, quand Dieu se manifestait à Moïse, au peuple d'Israël, sous forme d'une nuée pendant le jour et d'une colonne de feu pendant la nuit. On est en train de nous dire que Jésus disparaît dans la présence de Dieu, si vous voulez. C'est ça qu'on nous dit ici. C'est pas qu'il est en train de marcher sur les nuages, comme on voit parfois sur certaines images. Et notamment dans les images du style baroque, qui a des nuages partout, bon voilà. Non, Jésus disparaît et dans la présence de Dieu, ce que tout le Nouveau Testament va nous rappeler. Jésus est dans la présence de Dieu, Jésus c'est Dieu. Voilà. C'est pour ça que j'ai marqué ainsi sur le PowerPoint. On nous apprend ici que Jésus est présent partout, parce qu'il est Dieu, plutôt que de dire que Jésus est en train de marcher dans les nuages. Il y a un très bon film, Stardust, où on voit les gens qui marchent sur les nuages, c'est vachement sympathique, mais ce n'est pas du tout ce que fait Jésus. Ce qu'on nous dit ici, c'est que Jésus est Dieu et qu'il est présent pour nous tous. Un autre élément qui me semble important à mentionner, c'est que les 11 disciples ont persévéré, ils sont encore là, et notamment, ils persévèrent dans la prière tous ensemble. Et je trouve que c'est important de le rappeler. D'abord qu'ils ont persévéré, c'est pas rien de persévérer. Ensuite qu'ils ont persévéré dans la prière, et ça aussi c'est pas rien. Et ensuite qu'ils ont persévéré à prier ensemble, ça aussi c'est pas rien. Est-ce que c'est simple de vivre ensemble en tant que disciple? Certainement pas. Vous savez que dans l'équipe de Jésus, il y a Matthieu qui était quand même un collabo des Romains, et puis à côté, il y a Simon le Zélé. Zélé, ça veut dire qu'il est un révolutionnaire, qui, dans un mouvement qui tue des Romains. Vous voyez, ça devait être sympa parfois les discussions à table. Hein, où vous savez qu'il y a deux disciples que Jésus a surnommés les fils de tonnerre. Vous vous rappelez qui c'est? Jean, l'apôtre Jean. On a parfois une image de quelqu'un de très doux. Jésus l'a surnommé le fils de tonnerre. Ça devait être aussi parfois un peu sport. N'empêche, ils ont persévéré dans la prière ensemble. Je trouve que c'est beau quand même. Et puis, une chose qu'ils ont fait aussi, et je trouve important, c'est qu'ils ont persévéré à prier et attendre l'action du Saint-Esprit. Ça sera la suite, ça sera le chapitre 2. Vous savez comment c'est quand on est entre nous, on a facilement tendance à chercher à se convaincre les uns les autres. Et c'est pas ça que les disciples font. Ils se mettent ensemble devant le Seigneur pour prier le Seigneur. Je trouve que c'est un bon enseignement pour nous aussi. On nous mentionne aussi deux personnes ou deux groupes spécifiques. D'abord, on nous dit qu'ils prient avec des femmes. Alors, je crois que je vous ai mis une petite image d'une synagogue, si elle veut bien. Voilà, il y a même deux synagogues pour le prix d'un. En grand, c'est une synagogue reconstituée de l'époque de Jésus, c'est la synagogue de Nazareth. Et en petit, c'est une synagogue d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez dans cette synagogue? C'est qu'en fait, on sépare les hommes et les femmes. Dans la synagogue de Nazareth, les hommes sont assis là sur des espèces de bancs, et les femmes, ben, elles sont dehors et elles regardent par les fenêtres. Oui. Dire que les hommes et les femmes prient ensemble, c'est pas du tout évident à l'époque. Les hommes sont dans la salle, ils discutent de la parole de Dieu, ils prient ensemble, et les femmes, si elles veulent, elles peuvent écouter depuis les fenêtres ou dans les synagogues plus modernes, c'est pour ça que j'en ai mis une en tout petit, elles ont droit à un balcon, comme ça elles sont moins couvertes. Voilà. Vous voyez que les chrétiens, dès le début, ont compris que c'est pas ainsi que ça fonctionne. Que les femmes sont les bienvenues pour prier avec eux et pour témoigner avec eux. C'est d'ailleurs pas pour rien que les premiers témoins de la résurrection, les premiers à proclamer la résurrection, ce sont des femmes. Vous connaissez la blague qui dit « Si Jésus est apparu à des femmes, c'est pour que la nouvelle se répande plus vite ». Vous savez bien que c'est pas du tout ça. Jésus a enseigné à ses disciples et les disciples l'ont bien compris. Nous sommes tous des disciples du Christ appelés à prier ensemble et à témoigner ensemble. Ouais. Le fait que des hommes et des femmes prient ensemble, c'est peut-être un peu banal aujourd'hui. À l'époque, c'était révolutionnaire. L'apôtre Paul dira plus tard, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. nous sommes tous en Christ. Nous sommes tous unis à Christ.
Alors j'ai un peu complété pour aujourd'hui. Voilà.
Une autre mention aussi qu'on nous fait ici, c'est qu'on parle ici des frères de Jésus. Je trouve que c'est assez encourageant pour nous. Vous savez que les frères de Jésus ont eu beaucoup de peine à croire en Jésus. Jusqu'à la résurrection, ils ne font pas partie des disciples. On connaît deux des frères de Jésus, Jacques et Jude, parce que deux de leurs lettres font partie du Nouveau Testament. Mais on sait qu'ils ont eu de la peine à croire. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile de témoigner à sa propre famille. Mais on nous dit aussi que ça vaut la peine de le faire, parce qu'il se passe des choses. On a ici les frères de Jésus qui font partie des disciples.
Bon, et dans la suite, on mentionne aussi qu'il y a un petit groupe, il y a à peu près 120 personnes, ça fait déjà un bon petit groupe ou une bonne petite église.
Voilà, quelques remarques sur ce premier passage. Jésus, heureusement, est maintenant présent pour tous ses disciples. Et il nous appelle à persévérer, et notamment à persévérer dans la prière ensemble. Alors, une deuxième tranche de Bible pour aujourd'hui, c'est la suite de ce passage, et je vous invite à lire avec moi la suite du passage à partir du verset 15 et jusqu'au verset 26. Un de ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, ils étaient là environ 120. Mes frères, dit-il, il fallait que les prophéties de l'Écriture s'accomplissent, car le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de David, a parlé à l'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Cet homme était l'un des nôtres, et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ, il y est tombé la tête la première, il s'est éventré et ses intestins se sont répandus sur le sol. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris, c'est pourquoi ils ont appelé ce champ Akeldama, ce qui dans leur langue signifie le champ du sang. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison reste vide et qu'elle soit privée d'habitants, et plus loin, qu'un autre prenne sa charge. Nous devons donc choisir l'un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait le pays avec nous. Depuis le moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, cet homme sera ainsi avec nous, un témoin de sa résurrection. On présenta deux hommes, Joseph, appelé ou surnommé Barsabas, surnommé le Juste, et Matthias. Et l'on fit alors cette prière. « Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi pour occuper dans cette charge d'apôtre la place que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. » Puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné. C'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Voilà, une AG de l'époque. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme la nôtre aujourd'hui ou tout à l'heure. N'empêche, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pareilles. Vous voyez qu'ils ont un président qui s'appelle Pierre, qui pose la problématique. Il y a un disciple qui manque, qu'il donne les critères de choix. Et ensuite, c'est l'Assemblée qui va proposer des candidats. Jusque-là, on a assez l'habitude avec ça. Ensuite, ils tirent au sort. Ça, c'est peut-être un petit peu étrange pour nous, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, de nouveau, quelques remarques rapidement sur ce passage. La première chose, c'est concernant Judas. Il y a une chose qui me marque dans cet épisode-là, c'est la manière dont ils vont dépasser la tragédie de la trahison de Judas. C'est quand même pas rien. On nous rappelle, et Pierre le rappelle ici avec force, il était un des nôtres. Il a eu sa part dans le service qui nous a été confié. Autrement dit, le Seigneur a donné une charge aux 12 apôtres et Judas l'a portée avec eux. Et puis plus tard, on nous dit, c'est lui qui a servi de guide à ceux qui ont arrêté Jésus. Imagine le choc. Un ami nous a trahis. Et Pierre va aller encore plus loin puisqu'il va décrire son suicide qui a horrifié toute la ville. Il y a une tragédie dans le groupe des disciples. Comment on va dépasser ce moment-là? Je trouve important qu'on en parle et qu'on cherche à le dépasser. Et ce que Pierre va faire, c'est qu'il va donner une interprétation, il va chercher dans la Bible le sens de ce qui s'est passé. David a parlé à l'avance de Judas. Et finalement, qu'un autre prenne sa place. Vous voyez ? On ne reste pas sur l'événement. Ils auraient pu rester à se lamenter. « Oh, notre ami nous a trahis jusqu'à la fin de leur jour. » Vous savez qu'on peut faire ça aussi, hein ? Ils ont dit, dans la Bible, on a malheureusement bien des exemples de trahison. Qu'est-ce qu'on dit la Bible ? Et on va aller plus loin. Une petite note en passant, quand on lit dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, des références à des passages de l'Ancien Testament, ici notamment on a deux psaumes, le psaume 69 et le psaume 109, c'est important de lire ces psaumes en entier. Parce que le papier était très cher, donc on ne nous cite pas tout. Mais ils ont sans doute, peut-être, relu l'entier de ces psaumes. Et pour bien comprendre ce que Paul dit ici, dans son assemblée générale, c'est parfois précieux de relire l'entier des passages. Alors par exemple, quelques petits extraits du psaume 69. Le psaume 69, c'est le psaume d'un homme pieux qui est haï sans crainte, sans raison, pardon. Alors quelques petits extraits. « Oh mon Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans une boue profonde, je m'enlisse sans aucun appui. Ils sont puissants mes ennemis, menteurs qui veulent me détruire. » Voyez Pierre ici qui parle de la souffrance de Jésus, mais aussi de la souffrance d'eux en tant que disciples qui ont été trahis. On ne dit pas « c'est passé, on passe à autre chose hein ». On va parler de ce drame, mais pour le dépasser, pas pour y rester. Le psaume 109 est dans la même ligne. Voici quelques extraits, je vais lire le verset 1er, les versets 3 et le verset 28. Dieu ne reste pas silencieux, ils me font la guerre sans cause. Pour prix de mon amitié, ils m'ont accusé, tandis que moi, je suis en prière. Ils me font du mal pour le bien que je leur fais, et mon amitié est payée de haine. Ils peuvent maudire, toi tu béniras. Ils se dressent contre moi, ils seront couverts de honte, et ton serviteur sera dans la joie. Voyez un texte. Les passages qu'ils ont lus et relus en pensant à ce qui s'était passé avec Judas. Pas pour y rester, mais pour aller plus loin. Je pense qu'on voit ici un des fruits de la prière. Je pense que c'est aussi dans la prière en commun que les disciples ont petit à petit dépassé ce choc de la trahison de Judas. Ils en ont sans doute parlé entre eux, mais ils ont surtout prié. Alors vous savez bien qu'on peut prier ensemble pour faire un peu mousser notre colère ou notre tristesse. Ça, vous savez qu'on peut faire ça aussi. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont prié pour que le Seigneur les amène plus loin. Une autre remarque qui me semble importante, c'est ce que Pierre ne dit pas. Pierre ne dit pas ici que Judas, en fait, n'a pas été le seul à trahir Jésus. Il a fait bien sûr quelque chose de plus terrible que les autres, puisqu'il a accepté d'être payé pour livrer Jésus. Mais en fait, sur 12 disciples, il y en a 11 qui ont trahi Jésus. Seul Jean est resté au pied de la croix. On sait que Pierre, notamment, a nié connaître Jésus. Il y a par contre une différence importante. C'est que Judas ne s'est pas repenti. Et je trouve que c'est une leçon importante pour nous. On est appelé à venir à Jésus et recevoir le pardon. On est appelé aussi en tant que disciple à persévérer dans la prière en tant que disciple pardonné, pas en tant que disciple parfait. Le problème de Judas, c'est qu'il ne s'est pas repenti. C'est ça le plus grand problème en fait. Je crois que c'est Maurice Ray qui aimait à dire « Le Seigneur n'a aucun problème avec notre péché. Par contre, il a un gros problème avec notre difficulté à nous repentir. » Nous sommes une église, nous sommes donc appelés à accueillir ceux qui se sont repentis comme quelqu'un de pardonné et non pas comme un traître éternel, si j'ose dire ça comme ça. En passant, vous remarquerez que la Bible ne donne pas de réponse précise à la question « Pourquoi Judas a trahi Jésus ?» Et pourquoi c'était Judas plutôt qu'un autre ? On sait que Judas aimait un peu trop l'argent, mais ça n'explique pas tout.
On sait qu'il était aigri contre certaines décisions de Jésus, mais ça explique certainement pas tout non plus. Certains imaginent que Judas pensait que Jésus voulait chasser les Romains et qu'il était déçu, mais ça explique pas non plus la trahison de Judas. On imagine bien que Simon le Zélote, le révolutionnaire, avait les mêmes attentes que ça. N'empêche, il n'a pas livré Jésus. On a seulement ici une sorte de mise en garde. Un disciple ne persévère pas d'office. On a tous besoin à revenir à Dieu, à abandonner nos mauvaises attaches, par exemple l'argent ou par exemple l'amertume, à reconnaître nos lâchetés, nos manques de foi et à revenir à Jésus. On n'est pas là pour mettre des hiérarchies entre les péchés ou pour dire qu'un tel est pire que l'autre. Nous sommes appelés pour nous encourager à nous repentir et pour prier ensemble. Ensuite, on arrive à la question de l'élection. Alors, comme je ne suis pas du tout le PowerPoint, je suppose que Bruno arrive à s'en sortir. Voilà. Le processus d'élection ici du 12e apôtre est assez semblable à l'élection des diacres qu'on va trouver dans Acte 6. Donc on y reviendra dans quelques temps quand on arrivera à Acte 6. Voyez au moins que Pierre a donné des critères. Un homme capable d'être un témoin de la résurrection, un homme qui a cheminé avec Jésus depuis le début. Et vous voyez que l'Assemblée propose deux personnes. Joseph, qui a deux surnoms, on le surnomme Barsabas, vous savez ce que ça veut dire ? L'encourageur. Pas mal, hein ? On le surnomme le juste et l'encourageur. J'aimerais bien qu'on me surnomme comme ça quand même, c'est pas mal, hein ? Et Matthias. Bon. Vous remarquez qu'on ne sait pas trop comment s'est passée la recherche de candidats. Combien de temps, combien d'entretiens il y a eu, on ne sait pas. On sait seulement que l'Assemblée en a proposé deux. Dans Acte 6, on sait que ces candidats doivent d'abord être validés par les apôtres avant d'être acceptés. Ici, on n'en parle pas. Bon, on ne sait pas trop. On sait que l'Assemblée a discuté et qu'ils ont proposé deux personnes. Ensuite, on prie et on tire au sort. Alors, c'est un petit peu étrange. On n'a pas trop l'habitude de tirer au sort. Et je pense qu'on serait un petit peu mal à l'aise si cet après-midi, on tire au sort pour savoir qui doit être dans le conseil. Bon. Il y a des évangéliques qui l'ont fait, hein. Chez les frères moraves, on considérait qu'on était tous témoins. Donc quand on voulait envoyer quelqu'un en mission, on mettait tous les noms dans un chapeau, on tirait. Ah, tiens, hop, aujourd'hui c'est un tel qui part en mission au Groenland. Bon, je ne suis pas sûr que... Bon, bref. Il me semble des choses importantes, c'est un peu l'état d'esprit qui est dans ce choix du 12e apôtre. Et je pense que, par contre, cet état d'esprit-là, on doit le garder de toute façon. Quel que soit le mode de scrutin, qu'il y ait des primaires ou pas, qu'il y ait des grands électeurs, ou quelque chose. Bon. Ici, le critère, vous savez ce que c'est quand on doit faire une élection. Parfois, on le perçoit comme quelque part, on rejette certains. C'est pas du tout ça qu'ils vont faire. On n'est pas en train de dire que l'un est moins bon que l'autre. On cherche lequel des deux doit maintenant porter la charge. Et je trouve intéressant cette idée de tirage au sort. Il n'y a pas de perdant et de gagnant. On cherche juste. C'est la part de qui aujourd'hui ? Joseph Barsabas ou Barnabas deviendra ensuite un missionnaire. Il formera un novice un petit peu connu qui s'appelle l'apôtre Paul. Vous voyez, on ne nous dit pas qu'il est moins bon que Matthias ou meilleur. On nous dit simplement que Dieu avait une autre charge pour lui. Sommes-nous dans la charge voulue par Dieu ? Voyez bien, plusieurs fois dans ce texte, deux fois je crois, on nous rappelle que Judas a déserté sa charge. Il était appelé à porter la charge avec les 11 autres et il l'a abandonnée. Et on a ici Matthias qui est prêt à porter la charge avec les autres. Je trouve que c'est quand même une approche assez intéressante. On ne rejette personne, on ne considère pas que l'un est meilleur que l'autre, que l'un a été, entre guillemets, choisi parce que préféré. On cherche qui est à sa place. Et l'autre est simplement choisi pour une autre charge. Avec la question pratique, honorons-nous toujours chacun pour ce qu'il a fait ? Combien de personnes bossent pour qu'un culte comme ceci ait lieu ? Vous avez déjà posé la question ?
minimum une quinzaine, parfois plus. Je ne sais pas si vous les voyez, si vous le savez, et surtout si vous les honorez chacun. Chacun qui a porté ensemble la charge. Tout à l'heure, on va remercier Elière et Inam qui, après de nombreuses années dans le conseil, souhaitent prendre d'autres charges. On n'est pas du tout en train de dire qu'ils nous quittent. On est juste en train de dire qu'ils prennent d'autres charges. Bon, dans ce passage-ci, on tire au sort, où on a plutôt l'habitude de voter. Mais vous comprenez que dans un cas comme dans l'autre, nous devons être au clair. On cherche à placer chacun à la place prévue par Dieu. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il me plaît ou parce qu'il ne me plaît pas. On vote parce que nous croyons que telle personne est appelée par Dieu à cette charge-là maintenant. Alors, parce qu'il y a un vote tout à l'heure, je trouvais important de faire deux petites mentions. Parce que j'ai eu plusieurs questions là-dessus, donc autant répondre à tout le monde pour ceux qui n'ont pas eu le courage peut-être de me poser la question. D'abord, on devra notamment voter pour mon mandat de pasteur. Pourquoi faut-il renouveler le mandat d'un pasteur régulièrement ? Ah, c'est la question qu'on m'a souvent posée. Moi, j'aime répondre avec un peu l'image du couple. Vous imaginez que vous êtes dans votre couple, que vous avez beaucoup de femmes qui vous font des avances un peu partout, mais qu'à la maison, il y a juste des petits accrochages et votre conjoint vous dit jamais « je t'aime ». Vous imaginez ce que ça produit petit à petit. Oui ? On a besoin régulièrement de se rappeler, on veut être ensemble. On veut travailler ensemble. Ça fait partie d'une relation saine. Et je pense à la mission du conseil de me demander régulièrement, Olivier, est-ce que tu veux continuer de bosser avec nous ? Et moi, inversement, de vous poser la question à vous, est-ce que vous voulez travailler avec Olivier ? Je crois que ça fait partie des choses nécessaires pour avoir une relation un peu équilibrée et saine. Voilà. En passant, je vous encourage évidemment à dire à votre épouse très souvent « je t'aime », même si d'habitude les maris disent « oui, mais elle le sait déjà ». Dites-le quand même, c'est toujours bien quand même. Ensuite, mentionnez comment ça se passe le choix des responsables dans la Bible. Parce qu'il y a en fait deux situations assez différentes. Dans le Nouveau Testament, chaque église est structurée un petit peu différemment, qui montre qu'on a une certaine liberté d'action, mais on voit qu'il y a deux situations quand même assez différentes. La première situation, ce sont les églises en crise, ou en crise grave. Et la deuxième situation, c'est les situations entre guillemets normales. Voilà. Donc les situations en crise grave, on a une situation où le président de l'union d'église, par exemple Paul de Tarse, va envoyer un pasteur, par exemple Timothée, avec pour mission de virer tout le conseil et de mettre de nouveaux conseillers en place. Voilà, c'est ce qu'on nous raconte dans Timothée, mais aussi dans Tite, par exemple. Hein. Et c'est Paul, le directeur de l'Union et d'Église, qui donne des missions précises à Timothée, en l'occurrence, redresser l'église d'Éphèse sur un certain nombre de points précis. Voilà. C'est une manière de fonctionner. Dans la Bible, c'est la manière de fonctionner quand une église est en crise très sévère, où le témoignage de la vérité est réellement mis en péril dans cette église d'Éphèse. Dans les autres cas, la situation est assez différente, puisque l'apôtre Paul va écrire aux autres églises « Choisissez-vous les responsables, réglez-vous vous-même vos problèmes entre vous. » Vous voyez la différence ? Nous avons cette responsabilité de nous organiser, de choisir nos responsables, de trouver des solutions. Ça fait partie de notre boulot. On considère, bon, voilà, on espère que ce n'est pas orgueilleux de la part du conseil d'église, qu'on n'est pas dans une église en crise. Donc nous avons cette responsabilité, en tant qu'assemblée générale, de prendre ces décisions-là, nous, et de l'assumer, nous. Voilà. C'était une parenthèse un peu concrète et pratique. Conclusion. Dans le tout début du livre des Actes, on nous rappelle que Jésus est présent avec nous toujours et qu'il nous donne un mandat central, être témoin, en particulier témoigner que Jésus est vivant. On est appelé à être témoin de Jésus-Christ. Autrement dit, pas raconter notre vie partout, mais être témoin de Jésus-Christ, c'est pas tout à fait pareil. La suite de ce passage, me semble-t-il, nous lance un autre appel, qui est l'appel de prier ensemble, de prier, de persévérer dans la prière ensemble. Je pense que c'est un des éléments qu'on voit dans cette première assemblée générale, si j'ose dire ça comme ça, c'est une constante de vouloir écouter le Seigneur ensemble. Voilà. Pierre a cette charge de donner des critères, de pointer des éléments qu'il faut décider maintenant, il y en a d'autres qu'il faudra décider plus tard, on le verra dans la suite des actes, mais la tâche de chacun c'est de prier ensemble. Et voyez aussi en particulier cette idée centrale, on n'est pas là pour honorer quelqu'un ou pour écarter d'autres, on est là pour chercher la volonté de Dieu qui place chacun à sa propre place. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu nous donnes un appel à chacun d'entre nous. Nous savons que tu confies une mission à l'Église et à notre Église, ici à Chartres en particulier. Et nous avons chacun apporté une part de cette charge. Je te prie, Jésus, vraiment que tu viennes nous éclairer chacun et nous apercevoir quelle est notre part à nous. D'autres porteront d'autres parts. Nous avons apporté la nôtre. Pour que ton Église soit belle, pour que ton Église entre dans ta volonté. Et qu'elle annonce avec fierté ta résurrection et ton prochain retour. Amen.